midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Est-ce que vous êtes choqués par les déclarations d'Emmanuel Macron qui veut, je cite, « emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout ». On va aller à l'Élysée retrouver Jacques Seret, vous entendrez la réaction de Valérie Pécresse et puis on sera en direct avec Frédéric Michaud de l'Institut de sondage Opinionway. Sanofi a fait preuve d'un manque de vigilance et d'information au sujet de son médicament, la dépakine, qui peut provoquer des malformations au fœtus chez la femme enceinte, évidemment. C'est ce qu'estime la justice. La décision a été rendue ce matin, on va y revenir. Novak Djokovic, désormais surnommé Novax Djokovic, il est au cœur d'une polémique mondiale. On va vous dire pourquoi le Premier ministre australien menace de le renvoyer par le premier avion. Novak Djokovic, qui veut participer à l'Open de tennis d'Australie à Melbourne. Et puis la tendance météo en France avec vous, Marlène Duret.
Plus froid avec le retour de belles éclaircies au nord et à l'ouest du pays, mais aussi sur une partie des régions méditerranéennes avec du mistral et de la tramontane assez musclée. Et puis il neigera encore un peu sur les massifs montagneux.
Marlène Duret qu'on retrouve dans un instant à la fin d'Europe Midi.
Europe 1.
Emmanuel Macron veut être au centre des débats politiques en cette rentrée à 3 mois du premier tour de la présidentielle. C'est réussi. Le président de la République a choisi Le Parisien pour parler ce matin et sortir cette phrase choc sur les non-vaccinés qu'il veut emmerder jusqu'au bout. Avant de rejoindre Jacques Seret à l'Élysée, écoutez ce que disait ce matin Valérie Pécresse, la candidate des Républicains à la présidentielle, sur CNews au micro de Laurence Ferrari.
J'étais indignée par ses propos parce qu'il n'a pas dit que cela. Il a dit aussi que les non-vaccinés n'étaient pas des citoyens. Or, ce n'est pas au président de la République de trier entre les bons et les mauvais Français. Il faut les accepter, il faut les diriger, les rassembler sans les insulter. Il faudra mettre fin à ce quinquennat du mépris. Je suis d'ailleurs la seule à pouvoir en terminer avec un président qui, visiblement, ne supporte plus les Français quand ils ne pensent pas comme lui.
Voilà pour Valérie Pécresse. Jean-Luc Mélenchon déclare « La vulgarité n'apporte rien ». Réaction du candidat de la France Insoumise à la présidentielle. Jacques Seret en direct de l'Élysée. Jacques, l'indignation est générale dans l'opposition. Mais ce qu'il faut bien comprendre, Jacques, c'est que c'est une communication d'Emmanuel Macron totalement maîtrisée. Ce n'est pas un dérapage.
Oui, ça n'a rien d'un dérapage, Romain. On est loin de la petite phrase sortie à la va-vite et pas réfléchie. Cet entretien avec les lecteurs du Parisien a duré 2 heures à l'Élysée. Et cette formule « emmerder les non-vaccinés », le chef de l'État la prononce à 2 reprises. C'est ça la stratégie, insiste Emmanuel Macron, qui juge même les anti-vaccins d'irresponsables. Et à ses yeux, les irresponsables ne sont plus des citoyens. Des propos chocs, extrêmement clivants. Et si le locataire de l'Élysée les prononce, c'est qu'il y trouve un intérêt. D'abord, ça lui permet en cette rentrée de janvier de se replacer au centre de la campagne. On ne parle que de lui. Surtout, avec ce procédé, son objectif inavoué de fracturer la droite, fragiliser sa principale concurrente à la présidentielle, Valérie Pécresse. Vous le savez, si la candidate des Républicains défend le pass vaccinal, ses troupes sont très partagées sur la question. En se montrant cash et ferme, Emmanuel Macron prépare le terrain à ses soutiens pour qu'il pointe cette faille des LR, qu'il montre en quelque sorte que le camp Pécresse n'a pas la capacité de gouverner, puisque incapable d'être d'accord sur ce sujet fondamental. Je peux vous dire, Romain, que hors micro, les plus proches conseillers du président sont très satisfaits de cette séquence.
Jacques, dans cette interview fleuve donc accordée à nos confrères du Parisien et d'aujourd'hui en France, c'est le président de la République qui parle ou c'est le candidat ?
Alors là, il n'y a plus de doute, Emmanuel Macron endosse le costume de candidat. Je le cite, il n'y a pas de faux suspense, j'ai envie, explique-t-il au sujet de la présidentielle. Il attend simplement que la situation sanitaire s'améliore pour se déclarer officiellement, mais ses mots sont bien ceux d'un candidat. Après le président bienveillant qui faisait son mea culpa le mois dernier, place aujourd'hui au candidat transgressif.
Merci beaucoup Jacques Seret dans la cour de l'Élysée. On est en direct avec Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'Opinionway, Pôle Opinion. Bonjour Frédéric Michaud.
Bonjour.
Je voulais vous avoir pour avoir votre avis de sondeur, évidemment. Est-ce que selon vous, les Français sont choqués ou sont finalement d'accord avec le président de la République ?
Alors sur la forme, je pense que c'est un propos qui est choquant, hein. C'est un propos qui est vulgaire, qui ne correspond pas au niveau d'expression qui est attendu du chef de l'État. Il y a des précédents, hein. On se rappelle du propos de Nicolas Sarkozy lors d'un salon de l'agriculture qui avait été aussi mal perçu et qui avait abîmé son image présidentielle. Là, en l'occurrence, c'est un propos qui traduit aussi une forme de condescendance et qui réactive l'image d'arrogance qui colle au président de la République depuis plusieurs années et qui vient aussi saper tout le travail qu'il avait effectué, notamment lors de l'interview du 15 décembre, hein, vous vous en souvenez. Il disait qu'il avait appris à mieux aimer les Français.
Oui, sur TF1, il était allé sur TF1, certains disent même qu'il s'était invité sur TF1 pour dire ça. Notamment.
Oui, pour lisser son image, pour redorer son blason, ben là on voit que tous ses efforts sont ruinés d'une certaine manière.
Oui, parce qu'on lit ici ou là, un président de la République ne devrait pas dire ça, évidemment pour reprendre le titre du livre sur François Hollande. Un président de la République peut pas parler comme ça, même aujourd'hui j'allais dire.
Non, le rôle d'un président de la République, c'est évidemment de rassembler, de travailler à la cohésion nationale. Là, c'est un propos qui antagonise, qui crée des divisions dans la société. Donc, c'est vraiment un propos qui est aux antipodes de la fonction présidentielle. Et puis, je dirais aussi que dans la stratégie politique du président de la République, c'est un propos contre-productif. On sait que dans une négociation, l'autre doit rester un partenaire. Il ne faut pas en faire un adversaire. Là, il vient nourrir le bras de fer avec les non-vaccinés, il les renforce, il les fortifie dans leur position. Il aurait dû évidemment assumer sa stratégie de contrainte, mais aussi poursuivre un travail de conviction, un travail de pédagogie pour lever les dernières réticences. Là, il fait uniquement une partie de la stratégie et donc c'est pas suffisamment équilibré pour que ce soit productif et pour obtenir des résultats.
Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'Opinionway, vous connaissez c'est parfaitement l'opinion publique, vous l'étudiez tous les jours. Qui ça choque le plus ? La droite, l'opposition de droite, l'opposition de gauche, les jeunes, les plus âgés ?
Alors sans doute toutes ces catégories de la population. Oui. Évidemment, on voit qu'il y a au-delà des propos et au-delà du caractère choquant, il va y avoir une lecture politique et même électorale de ces propos. On voit bien que le président là entre dans dans sa stratégie électorale. Ça crée des tensions dans le débat politique. C'est pas forcément une bonne stratégie, une bonne façon de commencer une année électorale. Mais c'est un propos qui va liguer, qui va souder les oppositions au chef de l'État. Et à contrario, on peut dire que ceux qui sont le moins choqués sont ceux qui, évidemment, sont les soutiens du chef de l'État, c'est-à-dire les sympathisants de La République En Marche.
Frédéric Michaud, merci beaucoup, directeur général adjoint d'Opinionway, Pôle Opinion. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Et pendant ce temps, l'épidémie de Covid continue de progresser. Plus de 271 000 cas ces dernières 24 heures. Je voulais qu'on se penche sur cette enquête Europe 1 sur les déprogrammations de soins dans les hôpitaux. C'est extrêmement important. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour.
Vous avez enquêté avec l'aide de nos correspondants Europe 1 en région. Certaines régions sont totalement désorganisées. Hein.
Oui, il faut trouver du personnel coûte que coûte. La semaine dernière, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a transmis une note à tous les hôpitaux de la région et la demande est claire, annuler un maximum d'opérations prévues pour faire face à l'afflux de patients Covid et non Covid. Dans le Grand Est, la consigne est la même. À l'hôpital de Colmar, 38 lits de réanimation sont ouverts. Hier, il n'en restait qu'un seul de disponible. Alors pour s'occuper de tous ces patients et des futurs, il faut des bras. Conséquence, 45% des interventions chirurgicales sont déprogrammées depuis la mi-décembre. Dans le sud, en région PACA, le taux d'occupation des lits en soins critiques est de 108%. Cela veut dire que les capacités initiales ont été dépassées. Il a fallu ouvrir des lits et parfois déprogrammer. Effet direct dans le service de médecine interne de l'hôpital de la Timone à Marseille. 70% des opérations annulées. Alors quelles sont les opérations les plus touchées? Une chirurgie des amygdales par exemple ou d'une prothèse de la hanche. La cancérologie, les greffes et les chirurgies cardiaques et pédiatriques sont censées être maintenues, nous dit-on.
Merci beaucoup Yasmina. On est en direct avec le professeur Jean-Luc Jouve. Bonjour professeur, merci d'être avec nous dans Europe Midi. Vous êtes président de la commission médicale d'établissement de la PHM à Marseille, l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Ce taux d'occupation 108% en PACA dans les soins critiques, comment fait-on pour soigner, comment fait-on pour accueillir de nouveaux malades?
Ben, on a des paliers, c'est-à-dire que petit à petit, on transforme les unités de soins continus qui sont un peu moins denses que les réanimations en unités de réanimation transformées. Mm-hmm. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, on élargit un petit peu notre potentiel de lits. Au pire, on fait ce qu'on a eu à faire pendant la première vague, c'est-à-dire qu'on transforme des salles de réveil de blocs opératoires en salle de réanimation, mais là on est alors dans des conditions qui sont très très difficiles. Alors ça c'est les murs, et ensuite eh bien pour le personnel et pour pouvoir libérer ça, mais il faut annuler les interventions chirurgicales. La deuxième variable d'ajustement, c'est qu'on supprime le maximum de chirurgie qui peut attendre.
Quel type de chirurgie, quel type d'opération repoussée?
Mais, au tout début, c'est là où nous en sommes, c'est-à-dire on a supprimé toute la chirurgie orthopédique, réparatrice, prothèse, ménisque, ligament, chirurgie esthétique, rhinoplastie, chirurgie de déformation de colonne vertébrale qui peut attendre. Tout ça, c'est le premier stade. Là où on va avoir des ennuis, si vous voulez parler un peu cash, ça va être d'ici une quinzaine de jours, parce qu'il y a certaines catégories de patients qui pouvaient attendre quelques semaines, mais qui n'attendront pas plus. C'est-à-dire que là, actuellement, on peut faire la traumatologie, la cancérologie, mais par exemple, la chirurgie cardiaque, quand vous êtes en attente de changer des valves ou en attente de faire un pontage coronarien, eh bien, ce sont des gens qui sont dans l'attente, ils peuvent patienter 15 jours sans grand danger, 3 semaines, mais après, il faut y aller. Et c'est là qu'on risque d'être embêté. Ce n'est pas la chirurgie cardiaque et la neurochirurgie qu'on va être embêté.
Cette zone rouge, c'est dans une quinzaine de jours, c'est ce que vous nous dites là, hein?
On est dans les prévisions. Elles sont faites par les statisticiens, les épidémiologistes, mais aussi par ce qui se passe dans les pays limitrophes et qui ont de l'avance sur nous. Mais si on se compare aux États-Unis ou si on se compare au Royaume-Uni, on se rend compte qu'ils ont été jusqu'à doubler, tripler leur capacité d'hospitalisation conventionnelle avec Omicron. Mmh. Or, on n'est pas encore sous régime Omicron.
Professeur, une dernière question, pas d'avis politique évidemment, un avis médical. Le président de la République qui dit « je vais continuer à emmerder les non-vaccinés », c'est ça la stratégie, c'est la bonne stratégie? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous êtes dit ce matin en découvrant cette phrase?
Je ne me suis rien dit du tout, je me suis dit « non, on va continuer à soigner les non-vaccinés ». Et comme les autres, et à essayer de faire autant de pédagogie que possible. C'est ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs dans l'appel des médecins de la PHM.
Merci beaucoup professeur. Professeur Jean-Luc Jouve, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il est 12h42, restez bien sur Europe 1. Dans un instant, on va rester à l'hôpital. On va vous raconter ce qui s'est passé à l'hôpital de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Une scène hallucinante, le directeur a dû être exfiltré. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres vous informe sur Europe 1. Europe Midi, Romain Desarbres.
12h45, cette information qui tombe à l'instant à cause du Covid évidemment. L'état d'urgence sanitaire est décrété en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Guadeloupe. Et à ce sujet, je voulais absolument qu'on vous raconte ce qui s'est passé au CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe cette nuit. Vous vous souvenez certainement de cette image du DRH d'Air France agressé par des syndicalistes qui lui avaient déchiré sa chemise. C'est ce qui est arrivé au directeur du CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, donc, qui a été violemment agressé hier soir par un collectif de militants anti-vaccins, anti-vax. Caroline Baudry avec nous dans ce studio. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Racontez-nous ce qui s'est passé.
Eh bien, hier matin, une cinquantaine de manifestants se postent devant un bâtiment administratif du CHU pour en bloquer les accès. Ils réclament le versement des salaires des agents non vaccinés suspendus de leurs fonctions. La direction est séquestrée dans les bureaux, raconte le directeur général Gérard Cotelon, qui doit être exfiltré par la police. Et sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on le voit sortir escorté par les forces de l'ordre, noyé dans une mêlée de manifestants sous les insultes, les projectiles et les jets d'eau. Il est alors violemment frappé, plusieurs coups dans les côtes, un coup sur la tête qui le fait perdre connaissance pendant quelques secondes. Ses deux adjoints sont également exfiltrés. L'un d'eux se fait déchirer sa chemise, reçoit de l'urine alors qu'il court vers une voiture de police prise pour cible également. Aucune interpellation n'a été réalisée. Pour l'instant, la direction a l'intention de déposer plainte. Elle condamne fermement, je cite, ces débordements inqualifiables menés par une poignée d'individus dans cet établissement où 95% du personnel est vacciné.
Voilà, c'est fou. Merci beaucoup à Caroline Baudry. C'était très violent. Je vous redonne cette information. État d'urgence sanitaire décrété en Guadeloupe. On vient de parler de la Guadeloupe. En Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. C'est une décision de justice qui est tombée ce matin. Le tribunal judiciaire de Paris estime que le laboratoire Sanofi a commis, je cite, une faute en manquant à son obligation de vigilance et à son obligation d'information sur les risques de son médicament, la dépakine pour le fœtus, risque pour le fœtus en cas de prise de ce médicament pendant la grossesse, évidemment. Thibaut Hue avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour. Dites-nous, cette décision de justice, c'est un soulagement pour les victimes, hein?
Oui, c'est une grande victoire. Les 14 mères de famille qui ont lancé en 2017 cette action contre le groupe Sanofi arrivent au bout de leur combat. Le tribunal de Paris a tranché. L'entreprise pharmaceutique est responsable d'avoir manqué, vous le disiez, de vigilance et de ne pas avoir prévenu les femmes enceintes des risques de la dépakine. Ce traitement contre l'épilepsie qui aurait provoqué des malformations et des troubles neurologiques chez des milliers d'enfants. Selon l'avocat des victimes, Charles-Joseph Audin, c'est un premier pas important.
Le tribunal écrit et retient, et c'est la première fois que le laboratoire Sanofi a commis une faute. Le tribunal écrit que la société Sanofi a produit et a commercialisé un médicament défectueux. Donc pour les familles et pour les victimes, c'est essentiel de pouvoir lire que la responsabilité du laboratoire est acquise.
Mais le combat des victimes n'est pas encore terminé, surtout pour obtenir une indemnisation de la part de Sanofi. Et selon l'avocat, l'entreprise a d'ores et déjà fait savoir qu'elle ferait appel.
Merci beaucoup Thibaut Hue. 12h48, c'est une information qui est presque passée inaperçue. Écoutez, une équipe française du Paris-Dakar a-t-elle été visée par un attentat? La piste est très sérieusement envisagée. La France ouvre une enquête. C'était jeudi dernier en Arabie Saoudite. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. William, les Saoudiens assurent que l'explosion de cette voiture qui participe au Paris-Dakar est due à un problème mécanique, mais si les Français ouvrent une enquête pour terrorisme, c'est qu'il y a de forts soupçons. Et vous pouvez nous confirmer que des photos existent, hein ?
Oui, plusieurs photos et même une vidéo qui, selon nos informations, ont été prises par des membres de l'équipe Sodicar juste après l'explosion. Et c'est important, avant que le véhicule ne soit saisi par la justice saoudienne. La DGSI a récupéré ces documents et les enquêteurs sont évidemment en train de les exploiter. Des clichés qui ont été jugés suffisamment déterminants pour que le parquet national antiterroriste se saisisse des faits. Les propos de témoins directs ont aussi pesé dans la décision puisque les victimes évoquent un souffle, une explosion sous le véhicule. Enfin, le contexte lui aussi colore cette enquête. On est dans une zone où des organisations terroristes ont déjà menacé les intérêts français. Rappelez-vous, il y a un an de cette attaque à la grenade à Jeddah, lors d'une cérémonie de commémoration du 11 novembre. Quelques semaines plus tôt, c'était un vigile du consulat de France dans la ville qui était victime d'une agression au couteau. Alors, il s'agit d'une enquête préliminaire. Cela ne préjuge pas qu'à la fin, l'enquête conclura une attaque terroriste. Mais la justice française a donc estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour s'interroger sur les causes de cette explosion.
Merci beaucoup William. 12h50, restez bien avec nous dans un instant. On vous emmène dans une entreprise où le chef d'entreprise a pris une décision radicale pour éviter de voir sa facture d'électricité multipliée par 6. Vous avez bien entendu. C'est un reportage de Sandrine Prioul. Dans un instant, à tout de suite.
Historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Aujourd'hui, venez découvrir le récit de trois revenants qui ont repris du service.
Le tigre des mers et roi des corsaires Robert Surcouf qui a repris la mer à bord du revenant. Puis le général argentin Juan Perón qui fut président par deux fois avant de l'être une troisième près de 20 ans après.
Et une actrice de film X qui avait raccroché les gants il y a bien longtemps mais qui est retournée récemment pour l'unique et dernière fois promis, Brigitte Lahaye.
Historiquement vôtre, votre émission de récits historiques.
Alors à tout à l'heure, dès 16h sur Europe 1.
Carrefour. En 2022, Marie veut passer plus de bons moments en famille. Eh bien, jusqu'au 16 janvier, avec 60% de remise immédiate, l'appareil 2 en 1 raclette et grill Tristar 8 personnes est à 19,96€ seulement chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. À ce prix-là, vous n'allez pas manquer de bons moments en famille. En 2022, vos vœux les plus chers sont moins chers chez Carrefour. Carrefour.
Référence RR 2726, garantie 2 ans. Détails et magasins participants sur carrefour.fr.
Renault. Et toi, Alex, tu fais quoi dans la vie ?
Ingénieur, motorisation hybride. Voilà ce qu'il fait.
Ouh, ça a l'air compliqué.
Technologie Renault E-Tech. Difficile à expliquer, facile à comprendre. Il suffit de prendre le volant. Pendant les portes ouvertes du 13 au 17 janvier, découvrez Renault Captur E-Tech hybride, prête à partir des 199€ par mois. Renault. Pour Captur E-Tech RS 145 à l'aile des 49 mois, 40 000 km. Premier loyer de 3 200€ sous condition de reprise. Jusqu'au 31 janvier, si à Cordiac, voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Jusqu'à mardi chez Auchan, cagnotez 70% sur votre compte Waouh Auchan sur l'échange Pampers Baby Dry Mega. Soit 8 centimes seulement la couche, cagnotte déduite. À ce prix-là, vous ne serez plus jamais pris au dépourvu pour changer bébé. Et vous pourrez dire bye bye au « y'a plus de couche » ou « mais c'était à ton tour d'en acheter ». Auchan, avec plaisir. 6,81€ le paquet de couches taille 4, cagnotte déduite. Prix payé en caisse 22,70€, taille 3 à 6. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Conditions sur Auchan.fr.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
12h52, le prix de l'électricité augmente. Pour nous, les particuliers, c'est maîtrisé grâce à l'argent de l'État qui vient compenser cette hausse. Mais pour les entreprises, c'est très compliqué. En Mayenne, Sandrine Prioul est allée dans une entreprise dont la facture devait être multipliée par 6 cette année. Et cette entreprise, le chef d'entreprise, a trouvé une solution radicale pour éviter cette hausse.
Donc là, c'est une ligne à palette qui tourne 10 heures par jour.
Sillage des rondins, robots, lignes d'assemblage pour sortir chaque année 400 000 palettes. Yannick Chopin a besoin d'électricité, comme dans toute PME. Sauf qu'il ne s'attendait pas à voir son devis passer de 96 000 à 600 000 euros par an.
Quand je vois ces tarifs exorbitants, on marche sur la tête. Des augmentations x 6, on avait une charge externe de 9% qui représenterait aujourd'hui 50%. Franchement, incohérent.
Et ce patron a donc décidé d'avoir recours à un plan B. D'ici quelques jours, ce n'est plus le réseau électrique qui alimentera sa scierie, mais bien un groupe électrogène nourri au fioul.
Le groupe électrogène qui devrait être une solution pour un dépannage ponctuel. Là, aujourd'hui, les loueurs de groupes électrogènes ont de plus en plus de demandes parce que les factures sont si importantes qu'on revient en arrière, c'est-à-dire que le pétrole devient moins cher que l'électricité.
60 litres de gasoil par heure et tant pis pour le bilan carbone. Le patron de cette PME se dit contraint. Il envisage aussi d'augmenter ses tarifs au moins de 10%. Vilaine Lajuel en Mayenne, Sandrine Prioul, Europe 1.
Voilà, 60 litres de gasoil par heure, c'est beaucoup. Maud Descamps, bonjour.
Bonjour.
Service économie d'Europe 1. Maud, tout le monde ne peut pas acheter des groupes électrogènes, et puis ce n'est pas très écolo non plus. Comment les entreprises ont-elles fait pour s'adapter ?
Eh bien, certains dirigeants ont fait le choix de diminuer leur production. C'est le cas, par exemple, de l'un des plus gros producteurs d'aluminium de France qui est basé à Dunkerque. La production a été réduite de 10%, mais ça pourrait aller encore plus loin dans les prochains mois. Une des solutions pourrait venir, en fait, du côté de Bercy et d'EDF. Elle consisterait à revoir ce qu'on appelle le mécanisme de l'AREN. C'est un dispositif qui permet aux entreprises d'acheter une partie de leur électricité à un prix fixe auprès d'EDF, 42€ le mégawattheure, mais en quantité limitée. Bercy est donc en négociation avec la Commission européenne pour rehausser la quantité d'électricité vendue à prix fixe, qui permettrait donc de contenir la hausse de la facture. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la Commission européenne qui bloque, m'a confié un cadre qui travaille sur le dossier. Comprenez que c'est plutôt du côté d'EDF qu'il y a des réticences à vendre plus d'électricité à bas prix. En effet, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, estime bien que vendre plus d'électricité à bas prix profiterait surtout à ses concurrents, mais certainement pas aux clients. Une position qui agace sensiblement du côté de l'exécutif, où l'on rappelle que l'État a notamment sécurisé l'avenir de la filière nucléaire avec la commande de nouvelles centrales, et que c'est donc maintenant au tour d'EDF de faire des efforts.
Merci beaucoup Maud. On change totalement de sujet. Quoique, il y a de l'électricité dans l'air dans le tennis mondial. Djokovic au cœur d'une énorme polémique, une polémique planétaire. La star du tennis numéro 1 mondial a-t-elle bénéficié d'un passe-droit ? Djoko, qui ne serait pas vacciné, a obtenu, écoutez bien, une dérogation médicale pour participer à l'Open d'Australie. Et donc pour se rendre
à Melbourne. Axel May avec nous. Bonjour Axel.
Bonjour.
Djokovic, lui, reste muet pour l'instant.
Oui, il a publié il y a 24 heures une photo de lui où il était tout sourire avant d'embarquer pour son long périple devant le mener à Melbourne. Une photo accompagnée de la légende « J'ai eu une exemption médicale ». Alors, il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s'enflamment et que la presse australienne s'emporte. Je vous lis par exemple la une ce matin du Herald Sun. Novax, jeu de mots avec le prénom de Djokovic. Oui. Novax, no worries, pas de vaccin. Pas de souci. Alors premièrement, même si Djoko n'a jamais dit officiellement qu'il n'est pas vacciné, ses déclarations le classent quand même dans la catégorie plutôt des anti-vax. Deuxièmement, les autorités de l'État de Victoria ont beau assurer n'avoir pas fait de favoritisme. Le Premier ministre australien, vous l'avez dit, demande des explications et se fait menaçant. Et enfin, même si l'Open d'Australie explique avoir pris la décision sans connaître l'identité du joueur qui faisait la demande de dérogation, on a envie de savoir quel est ce fameux motif médical qui permet à Djokovic d'aller quand même en Australie en quête d'un 21e titre du Grand Chelem. Bref, l'accueil à l'aéroport de Melbourne risque d'être plutôt glacial.
Et voilà, le Premier ministre australien qui menace de renvoyer Djokovic par le premier avion si cette dérogation n'est pas justifiée médicalement. On va suivre cette affaire. Merci beaucoup Axel. Allez, le temps tout de suite avec Marlène Duré. La baisse des températures concerne tout le monde aujourd'hui. Hein.
Oui Romain, et elle est parfois bien marquée. Par exemple, à Biarritz, on va perdre 8 degrés. On va passer de 18 hier à 10 cet après-midi. L'atmosphère s'est bien rafraîchie et on a des maximales généralement comprises entre 5 et 9 degrés, mais on atteint ou on dépasse les 10 degrés en Méditerranée avec un maximum de 16 à Nice. Les belles éclaircies dominent au nord et à l'ouest, de même que le ciel se dégage bien en Alsace, dans le Languedoc-Roussillon, en basse vallée du Rhône et sur une partie de la Provence. Attention, Mistral et Tramontane soufflent fort jusqu'à 110 km à l'heure en pointe. La météo italienne influence le temps dans les Alpes-Maritimes et en Corse. On aura droit à des retours nuageux avec quelques averses possible, de la neige aussi, des 1300 mètres. Et puis le ciel s'annonce aussi chargé près des Pyrénées, du Massif central, au nord de Rhône-Alpes, en Franche-Comté, en Lorraine, ainsi que des Ardennes à la région illoise, avec aussi un petit peu de neige dans les Alpes du Nord et sur le relief auvergnat. Notez que la prochaine perturbation arrivera demain après-midi par le nord-ouest et traversera le pays en donnant de la pluie et parfois de la neige temporairement dans la nuit de jeudi à vendredi notamment.
Merci beaucoup Marlène. Il est 12h58, restez bien avec nous sur Europe 1 dans un instant. C'est La France Bouge, nous on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Très bel après-midi sur Europe 1.